VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La Cour suprême du Kenya a invalidé aujourd'hui la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta à l'issue du scrutin du 8 août dernier en raison d'irrégularités et ordonné la tenue d'un nouveau vote dans les 2 mois à venir. La victoire de Kenyatta est déclarée invalide. Nul et non avenu, a dit le juge David Maranga. La commission électorale n'a pas réussi à ou a refusé d'organiser l'élection présidentielle en accord avec les règles constitutionnelles. Uhuru Kenyatta avait été déclaré vainqueur par 1,4 million de suffrages d'écart. Le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, avait crié à la fraude massive après l'annonce des résultats. Et le 18 août, la coalition de l'opposition a déposé un recours devant la Cour suprême pour contester les résultats. C'est une journée historique pour le peuple kenyan, a réagi Raila Odinga à l'annonce de cette décision. Le Parti congolais du travail, le PCT, a obtenu 44 élus sur 66 sièges en jeu lors des sénatoriales indirectes, selon les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou à la télévision d'État aujourd'hui. Le PCT a réalisé un carton à plein dans tous les départements du centre et du nord du pays, considérés comme le fief électoral du président réélu en 2016 et qui cumule donc près de 33 ans au pouvoir. Les grands électeurs, il s'agit de 1100 conseillers municipaux et départementaux, ont voté dans 11 des 12 départements du Congo, pays d'environ 4 millions d'habitants. Le vote n'a pu être organisé dans le Pool, dans le sud du pays, en raison de la situation d'insécurité due aux violences qui ont éclaté après la présidentielle contestée de 2016. Les proches de l'opposante rwandaise Diane Shima Rwigara, qui n'avait pas été autorisée à se présenter à la récente présidentielle au Rwanda, affirme être sans nouvelles d'elle depuis mardi dernier. Selon son frère Aristide Rwigara, établi ici aux États-Unis, sa sœur et 4 autres membres de la famille ont été arrêtés et emmenés mardi vers une destination inconnue après une perquisition policière à leur domicile à Kigali. Aristide Rwigara.
Ils ont été au lieu de travail de Diane. Ils l'ont ramené à la maison en menottes. On leur a tous mis les menottes au poignet dans la maison et ils ont commencé à fouiller la maison entière. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient trouver, y inclus tout l'argent, tous les bijoux.
Comme vous n'êtes pas sur place, comment avez-vous pu confirmer cette information?
Il y a un témoin qui a vu tout ça. Pour le protéger, je ne peux pas dire qui il est, mais je suis certain de l'information.
Avez-vous eu les nouvelles de votre famille depuis mardi?
Non, monsieur, je n'ai pas su les joindre depuis mardi. Leurs téléphones sont coupés. La police a passé toute la journée à fouiller la maison et puis les ont emmenés vers la fin de la journée.
Mais la police rwandaise dément avoir procédé à des arrestations tout en admettant avoir perquisitionné le domicile à Kigali dans le cadre d'une enquête sur une affaire d'évasion fiscale et de contrefaçon. Votre réaction?
La police est en train de mentir. Ils sont en train de mentir. C'est pas la première fois. C'est pas la dernière fois, ils sont en train de mentir. Cette histoire de taxes là, ils ont inventé ça le jour où ma sœur a lancé son mouvement. C'est une tactique de répression parce que ma sœur les a exposés. Donc ils sont en train d'essayer de ruiner ma famille.
Aristide Rwigara, le frère de l'opposante rwandaise Diane Rwigara, joint par Jacques Aristide à Los Angeles. Le gouvernement camerounais affiche une fermeté à l'égard des médias diffusant des informations sur l'indépendance de 2 zones anglophones du pays. Cette semaine, les autorités ont arrêté plusieurs distributeurs locaux de chaînes de télévision pour avoir relayé des émissions d'un média en ligne. Reportage Moki Edwin Kizeka à Yaoundé, récit Eric Manirakiza.
Un distributeur de chaînes de télévision à Yaoundé a fait 4 jours de détention pour avoir relayé des images d'un média en ligne, Southern Cameroon Broadcasting Corporation, SCBC. Les intervenants plaidaient pour l'indépendance des 2 zones anglophones du pays. En juillet, le gouvernement a interdit de partager des messages de groupes sécessionnistes. Un des distributeurs à Yaoundé a déclaré qu'il a été libéré après un avertissement du ministre de la Communication, Issa Chiroma. Plusieurs autres distributeurs de SCBC ont également été libérés. Néanmoins, M. Chiroma reste inflexible.
This is not a joke.
Ce n'est pas une blague, c'est l'avenir commun de notre nation. Ce qui est en jeu ici, c'est que nous soyons Camerounais ici. Nous ne pouvons pas plaisanter avec ça.
La crise a commencé en novembre avec la grève des avocats et des enseignants anglophones pour exiger les réformes. Les autorités ont coupé pendant 3 mois tout accès à Internet dans les zones en proie à des violences. Au moins 30 organisations de médias ont été suspendues ou fermées et 8 journalistes envoyés en prison. Ils sont poursuivis pour diffusion d'informations susceptibles d'entraîner des troubles sociaux. Pour le président du Syndicat national des journalistes du Cameroun, Denis Kwebo, ces arrestations violent la liberté de la presse.
Nous avons rappelé à nos collègues qu'ils doivent se conformer à l'éthique de notre profession. Nous avons engagé nos membres à agir en solidarité. Nous avons demandé la libération de nos collègues qui ont été arrêtés au sud-ouest et au nord-ouest et sont actuellement détenus.
Mais Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, affirmait que le gouvernement demeure ferme.
Un journaliste est le chien de garde de la société. Et si le chien de garde donne de faux signaux, je vous le dis, il peut plonger le pays dans le chaos.
Cette année, la Maison de la presse du Cameroun et Reporters sans frontières ont indexé Yaoundé dans leurs indices annuels sur la liberté de la presse. La Maison de la presse a donné au Cameroun le statut de prédateur.
Fin de parcours pour la mission des Nations Unies en Haïti. Le dernier contingent de casques bleus composé de militaires brésiliens a plié bagage jeudi à Port-au-Prince. La MINUSTAH avait été déployée en 2004 après le départ du président Jean-Bertrand Aristide pour aider à endiguer la violence principalement enregistrée dans la capitale. Mais elle n'a jamais su gagner la confiance des Haïtiens. En avril, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre fin à 13 années de présence de casques bleu en Haïti. La résolution adoptée à l'unanimité prévoit la fin de la MINUSTAH d'ici au 15 octobre. La MINUSTAH sera remplacée par une nouvelle mission baptisée Mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti, la MINUJUST, qui sera chargée de former la police haïtienne. Il est 6h07 à Houston, aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et Houston, c'est au Texas. Opération de secours et évacuation se poursuivait ce vendredi, une semaine après l'arrivée de la tempête Harvey, dont l'ampleur des dégâts se révélait à la faveur d'une accalmie dans les précipitations et d'un début de décrue. La tempête tropicale, au départ d'un ouragan de force 4, a jusqu'à présent fait au moins 38 morts, mais le bilan pourrait s'élever, les secouristes craignant de découvrir de nouvelles victimes. Les dommages sont d'ores et déjà évalués en dizaines de milliards de dollars. Une usine chimique inondée suscitait des inquiétudes, mais les autorités américaines assuraient que le danger restait limité. Les États-Unis ont donné jusqu'à samedi à la Russie pour fermer son consulat général à San Francisco, ainsi que 2 annexes de ses services à Washington et à New York. Moscou n'a pas tardé à réagir. Bagassi Koura.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré regretter l'escalade de tensions entre Moscou et Washington, initiée selon lui par les États-Unis après la fermeture du consulat général russe de San Francisco dans l'ouest du pays, ainsi que de 2 annexes de ses services à Washington et à New York. Ces mesures américaines ont été prises en riposte à la réduction drastique du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie, 755 au total. Dans un communiqué publié jeudi, le département d'État américain assure toutefois vouloir mettre un terme au cercle vicieux qui ne cesse de détériorer les relations entre les États-Unis et la Russie et espère que sa décision n'entraînera pas de nouvelles représailles. Pour l'heure, personne ne sait si Moscou va se contenter d'une simple condamnation ou prendre de nouvelles mesures d'expulsion des diplomates américains.
Plus de 27 000 réfugiés de Birmanie sont passés au Bangladesh voisin en une semaine, fuyant les combats entre des rebelles musulmans Rohingyas et l'armée birmane, accusée par des militants d'avoir tué 130 civils d'un même village. Selon les derniers chiffres donnés aujourd'hui par l'ONU, 27 400 personnes sont arrivées au Bangladesh depuis vendredi dernier et 20 000 seraient bloquées à la frontière. Ces réfugiés sont majoritairement des Rohingyas. Le pape François et le patriarche orthodoxe Bartholomée ont lancé aujourd'hui un appel urgent aux responsables du monde pour qu'ils trouvent une solution à la crise climatique alors que la détérioration de la planète pèse sur les plus vulnérables.
Dans ce texte commun, publié à l'occasion de la journée de la création, le pape et le patriarche de Constantinople invitent toutes les personnes de bonne volonté à observer un temps de prière pour l'environnement ce 1er septembre. Fin de ce journal, le prochain c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie d'Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.